Eh bien, bonsoir, bienvenue dans cette rencontre autour de la collection Grand Fonds, c'est-à-dire cette collection rouge publiée par les éditions Chêne, qui fête cette année leurs 30 ans, ce que j'imagine vous savez, et si vous ne savez pas, il est temps de le savoir, car depuis le début de la semaine, il y a déjà un certain nombre de rencontres qui ont eu lieu autour de ces éditions, aussi bien de leur éditeur, Jean-François Magnier, que je salue au milieu de la salle, et puis des écrivains qui y publient. À la Maison de la Poésie, c'était autour de la collection de poésie étrangère. Au marché de la poésie, c'est tout le temps, jusqu'à la fin du marché, avec un certain nombre de poètes qui viendront. Et puis, j'annonce aussi la très grande et très belle exposition qui sera consacrée aux éditions Chêne, à l'Orangerie du Sénat, à partir du 12-13 juillet. Donc, les festivités autour de Chêne continuent et elles se prolongeront en août, comme chaque année, avec les rencontres sous l'arbre, les lectures sous l'arbre que Chêne rassemble, vous le savez, autour de la maison d'édition à côté du Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire. Alors, non seulement nous célébrons les 30 ans de Chêne, mais nous célébrons aussi les 19 ans de la collection Grand Fonds. 19 ans, c'est le bel âge. Hein, donc, dirigé par Jean-Marie Barnot et à côté de moi, Jean-Pierre Siméon, que je salue, qui sont tous les deux écrivains, poètes, et poètes publiés par Chêne d'abord, mais aussi auteurs de récits, de romans, de théâtre, suivant les œuvres de l'un et de l'autre, dont, hélas, nous ne parlerons pas aujourd'hui, puisqu'on est là pour parler avec eux de la collection. Donc je vais les frustrer un peu de cet aspect-là de leur activité. Mais je vous invite évidemment à aller fréquenter aussi leurs textes. Je crois que vous en serez tout à fait heureux, peut-être même un peu bousculé parfois, et ça fait du bien de l'être. Alors, tous les deux sont publiés d'abord chez Chêne, et ils sont parmi les premiers à publier des recueils de poésie chez Chêne. Ils sont devenus au fil des années des piliers, si j'ose dire, de cette maison, dans le développement de laquelle ils ont pris une part substantielle. Et bien évidemment, la question que vous attendez tous et que je ne vais pas manquer de leur poser, c'est savoir comment est née cette collection. Et pour affiner peut-être un peu la question, je vais leur demander si on a commencé par l'œuf ou par la poule. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'arrivée de manuscrits proposé, envoyé par des auteurs aux éditions Chêne qui semblaient intéressants à l'éditeur, mais qui ne lui paraissaient pas pouvoir trouver leur place dans les collections qui existaient déjà, notamment dans la collection verte, qui est la première collection des éditions, qui a suscité le désir, le besoin peut-être, de créer une autre collection, un autre lieu qui soit plus adéquat à ces textes, ou bien est-ce que c'est d'abord le désir d'ouvrir un espace éditorial neuf pour des textes plus rares, qui soient donc disponibles pour ces œuvres un peu hybrides, un peu inclassables, qui ensuite, par le fait qu'elles existent et qu'elles commencent à se manifester, susciter l'arrivée d'autres textes rares et inclassables aussi, j'espère. Alors, lequel d'entre deux répond ?
Est-ce que je peux répondre ?
Oui.
Non. De toute façon, on va faire un numéro de Laurel Hardy, je vous préviens.
Oui. Alors, Laurel.
Par rapport aux deux hypothèses évoquées par Dominique, là, mais les deux, quoi. Les deux. C'est-à-dire, la réponse est, bien sûr, les deux facteurs ont joué. Moi, je me rappelle que dans les années 80, j'allais régulièrement faire des lectures de manuscrits à Chêne. Assez souvent, pas toutes les semaines, mais enfin assez souvent. Je me rappelle des tas de manuscrits, je lisais, je faisais des petits mots comme ça pour aider Jean-François et Martine. Et il m'est assez vite apparu, Chêne existait déjà bien, etc. Assez vite apparu qu'il y avait, comme tu l'as dit Dominique, un certain nombre de textes qu'on nous donnait à lire qui étaient envoyés à Chêne, qui n'étaient pas de la poésie, objectivement pas de la poésie. Et pourtant, il me semblait que les gens ne se trompaient pas vraiment en nous les envoyant. Parce que c'était des textes qui avaient une fonction poétique. Comment définir la fonction poétique ici ? Peut-être dans le fait que c'était des écritures atypiques, disons. C'est qu'une des manières de voir les choses. Mais enfin, des textes, effectivement, qui étaient la plupart du temps en prose, ou en tout cas en fragments, enfin dans des formes comme ça assez variables, et qui ne relevaient pas du vers, en tout cas, et pas forcément de l'énonciation poétique au sens où on l'entend traditionnellement. C'est-à-dire que ça pouvait être narratif, ça pouvait être semi-narratif. Et donc, moi, j'en ai parlé à l'époque à Jean-François, et je dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà. Il y a cette réalité. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on répond systématiquement, vous êtes trompé, alors qu'effectivement, ils ne se trompaient pas vraiment, je crois, les gens qui nous envoyaient ça. Sauf que si c'était mauvais, mais ça, c'est une autre raison. Et puis, l'autre facteur, c'est que, effectivement, c'était après 11 ans, donc après la naissance de Chêne. La croissance de Chêne, Jean-François en a parlé lundi au CNL, elle s'est faite, je crois, de façon régulière, par paliers successifs. Et par. Tu parlais d'ouverture d'espace éditorial. Eh bien, à chaque fois, on a ouvert un espace éditorial nouveau avec les poèmes pour grandir. Et Grand Fond a été l'ouverture d'un espace éditorial, c'est-à-dire agrandir déjà l'espace de Chêne. Et puis, il y a eu les autres collections. Donc, je pense qu'il y avait aussi cette volonté d'avancer pas à pas et d'ouvrir le champ d'investigation de Chêne.
Si, voilà. Si je t'entends bien, c'est donc des manuscrits qui suscitent le besoin d'ouvrir ce lieu pour les accueillir. Or, les premiers manuscrits parus dans la collection Grand Fond, c'est le livre de Patrick Ravella, Forteresse, celui d'Hubert Voynier, Suite terrestre, qui paraissent en 91, si je me souviens bien, puis l'année suivante, Patrick Guyon, La naissance du récit, et Tombeau, Daniel Basset. Alors, est-ce que l'on peut dire, Jean-Marie, que, du coup, ce sont ces textes-là qui ont été fondateurs en ouvrant un champ éditorial nouveau, en manifestant la nécessité de ce champ éditorial nouveau?
Oui, j'ai pas tout à fait la même position que Jean-Pierre. Enfin, moi, je me souviens que c'est probablement quand même lié avec ce qu'il a dit, c'est-à-dire avec la présence de ces manuscrits atypiques à l'intérieur des bacs de réception de Chêne, mais moi j'ai quand même le souvenir qu'il y avait une préoccupation plus littéraire, il me semble, de la part de Jean-François, parce que moi j'ai été contacté par Jean-François. À l'époque j'étais déjà bien entendu à Chêne, mais je me souviens très bien d'une conversation l'été où il m'a dit il faudrait ouvrir la maison à. Alors, je ne sais pas s'il pensait à ces textes dont tu parlais, mais en tout cas à des textes qui ne sont plus tout à fait de la poésie. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que les premiers textes ont été fondateurs? Moi, je ne suis pas tellement sûr. Je trouve qu'ils nous sont apparus comme, évidemment, devoir rentrer dans un cadre finalement assez... Est-ce qu'on dira flou, en tout cas assez large qu'on s'était fixé, fondateur, je ne sais pas, dans la mesure. Je crois que c'est petit à petit que la collection a pris qu'à l'intérieur de cette collection, il y a eu des axes qui se sont peu à peu formalisés, en tout cas qui ont pris leur autonomie et. Avec des textes vraiment différents les uns des autres, de tonalité et d'écriture aussi. Voilà.
Alors, tu viens de prononcer deux mots qui me semblent vraiment intéressants, sur lesquels j'ai envie de rebondir. C'est le terme de cadre et le terme d'axe. Et effectivement, si on veut essayer de réfléchir à ce qui fait la spécificité de cette collection, peut-être qu'on peut essayer d'aller un peu plus loin dans cette direction. Alors, est-ce que vous pouvez dessiner le cadre et esquisser les axes?
En tout cas, je vais redonner la parole. Mais les axes, je crois que oui, ça s'est peu à peu clarifié. Il y a une veine, disons, une veine grave dans Grand Fond, qui a connu de nombreux auteurs. Je pense par exemple à Daniel Basset. Puisque tu citais tout à l'heure Tombeau, mais Daniel Basset, nous l'avons publié 5 fois, donc on a publié 5 livres d'elle, toujours dans cette veine-là. Il y a une veine beaucoup plus humoristique, enfin beaucoup plus détachée par rapport avec distance, disons, une veine de distance, comme celle par exemple que représente Itonaga. Et puis il y a une veine qui s'approche un peu plus du récit ou de narration, comme celle de Marie Cosnet, par exemple. Voilà, enfin, c'est... Mais peut-être ouais. Jean-Pierre pourrait dire ouais, quelque chose d'autre.
Bien sûr, c'est, mais ça, c'est un point de vue rétrospectif qui organise le
voilà.
Thème.
Voilà.
Je crois qu'on ne peut pas parler d'axe, parce que l'axe veut dire orientation, et donc intention assez claire. Et en fait, reportons du cadre. Le cadre, c'est-à-dire l'ensemble des critères qui définissent le lieu de la collection, ce cadre est un hors-cadre. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire qu'à l'origine, nos critères, c'est quoi? C'est le thème de grand fond que Jean-François nous a proposé. Il dit tout, puisque le grand fond, c'est les marges extérieures du livre, en typographie. Or, ce qu'on voulait, c'est chercher des textes qui habitent l'espace, la marge extérieure de la littérature, de la poésie et des genres identifiés. Donc, à partir du moment où on est dans les marges extérieures, vous voyez les limites et l'indéfinition, n'est-ce pas ? On sait ce qui borde à l'intérieur, on ne sait pas ce qui borde à l'extérieur. Donc, on est dans un flou, et en même temps, c'est ce flou qui nous a, à mon avis, permis d'être créatif et inventif. Mais les lignes de force dont a parlé très justement Jean-Marie,
oui,
je pense qu'elles se sont
déclarées au fur et à
mesure. Elles se sont déclarées. Et c'est la caractéristique de cette collection, je crois, c'est qu'elle entérine des lignes de force qui ne dépendent pas de nous, d'un point de vue dogmatique ou théorique, c'est-à-dire qui nous précèdent, qui sont dans le désir de ceux qui écrivent. Et nous, là-dedans, on fait un choix. Alors ça, c'est certain. Mais on voit que le choix est assez large, au fond. Parce que, je dirais, on peut quand même définir, si ce n'est pas trop fastidieux, quelques critères, je crois, on y reviendra peut-être, mais d'abord, c'est du texte, en général, de la matière textuelle, je pourrais dire, qui n'est pas du vers. Mais Tasserie, par exemple, c'est quand même du verset. Mais c'est narratif, enfin voilà. C'est des textes qui oscillent du point de vue du vrai, du vraisemblable, du rapport au réel, qui oscillent entre des extrêmes, parce qu'on est parfois on n'est pas loin de l'autofiction ou de la biographie, et puis parfois on est dans de la fiction, voilà, ou des pseudo-fictions, je ne sais pas. Et parfois on est plus proche du journal, voire du journal intime, vous voyez. C'est-à-dire que j'ai le sentiment, en regardant après, que on touche à l'intersection de plein de genres. C'est-à-dire, on pourrait... J'ai participé à un colloque à Valenciennes, universitaire, sur ces questions de littérature des marges. J'avais dit, en fait, je crois que derrière tous les textes de grand fond, et c'est pas prémédité, hein, je reconnais pas, il y a un genre matriciel. C'est-à-dire, il y en a qui, très loin, renverraient au roman ou à la nouvelle ou à la poésie.
Mais un genre dont le texte s'émancipe.
Voilà, dont il s'émancipe et dont la matrice est très lointaine. Hein, mais on pourrait, je crois, si on voulait retirer les choses vers une nomenclature définie.
Et donc, si il s'agit d'être disponible à ces textes différents et en même temps avoir une exigence éditoriale, une exigence d'égalité, c'est-à-dire que le seul critère, c'est la force d'évidence littéraire que peut fournir le texte lui-même, il n'y en a pas d'autre.
Oui,
finalement. Le texte s'impose à votre lecture.
Finalement, oui. Enfin,
il le dit bien.
Non, mais attendez, attention. En ce qui concerne, tu parles d'évidence littéraire.
Oui.
Alors, on va pas. Non, on peut pas dire que c'est seulement l'évidence littéraire. Littéraire, peut-être. Si on parle de la matière textuelle. Alors là, on est dans littéraire. Par exemple, moi, je dirais que ces textes répondent à un fait littéraire, un comportement littéraire des deux dernières décennies, qui est l'inquiétude formelle. Mais pas l'inquiétude formelle telle
qu'elle... Pour elle-même.
Oui, par elle-même, c'est ça. Et c'est là qu'on dépasse le littéraire. Une inquiétude formelle qui est la conséquence d'une... d'un libre questionnement du point de vue sur le monde, quoi. Voilà. C'est un peu compliqué parce que...
Oui, mais enfin, ça, c'est en même temps la définition de la littérature. Enfin, je ne vois pas pourquoi on exclurait cette référence au littéraire.
Alors,
parce qu'on dit,
Non, non, je ne l'exclus pas. Non. Je dis, ça ne suffit peut-être pas.
Hein. Oui, mais... Voilà. Oui. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle le littéraire. Mais parce qu'on a dit souvent, et c'est une formule qu'on emploie, que ce sont des... C'est une formule assez redoutable, parce que c'est une formule qui consiste à dire ce sont des textes dont l'exigence de l'auteur invente sa... dans lesquels l'exigence de l'auteur invente sa propre forme.
Mmh.
Voilà. C'est une formule. Or, quel écrivain digne de ce nom ne se référerait pas à cette position de principe?
Alors, peut-être, Jean-Marie, on peut avancer encore un peu plus loin en reprenant cette idée de matrice qu'évoquait Jean-Pierre Siméon tout à l'heure, parce que, de fait, si un texte qui est une force littéraire, une écriture, une évidence, s'inscrit plus délibérément et plus nettement dans un genre identifié comme tel, vous ne le recevez pas. C'est-à-dire que vous ne publiez pas de romans qui se reconnaissent comme romans, vous ne publiez pas de poèmes qui seraient plus à sa place dans la collection verte, vous ne publiez pas d'autobiographie stricte. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette espèce d'émancipation, de décalage, ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir des romans qui sont des romans littéraires, des autobiographies littéraires, de la poésie qui est une qualité littéraire aussi. Est-ce que ça peut être un critère déterminant?
Enfin, le fait est que ça n'avait de sens, notre travail, que si on prenait des textes qui n'auraient pas trouvé leur place légitimement chez un autre éditeur qui faisait chaîne à cette prétention, je crois, je parle pour Jean-François Martin, mais enfin quand même, d'assumer une part du travail éditorial qui n'est peut-être pas assumée, notamment quand il naît à la fin des années 70 par la grande édition, pour la poésie, par exemple. Pas tout seul, mais enfin, bon. Eh ben, c'est un peu pareil. Pourquoi publier du roman? Combien de fois on nous envoie des romans? Et Jean-François y répond justement. Pourquoi vous nous envoyez à nous des romans? Il y a des éditeurs pour ça. Ce n'est pas notre ambition. Ce n'est pas simplement peut-être notre compétence. Voilà. Donc, ça avait un sens que si on prenait ces textes, alors moi je dirais hors format d'une certaine façon. C'est typiquement comme si on regarde des rayons de bibliothèque, il y a des formats prévus, quoi. Et puis il y a ces bouquins mal foutus parce qu'ils sont trop petits, ils sont trop grands, ils sont trop épais, ils sont en beau papier, je ne sais rien, ils ne rentrent pas dans la bibliothèque. Eh bien, métaphore pour dire que c'est un peu ça, mais du point de vue littéraire qu'on cherche.
Vous avez entendu, donc, définition de Barnot de la collection Grand Fond, c'est la littérature. Définition de Siméon, c'est mal foutu. Donc en fait, c'est la littérature mal foutue qui est accueillie
je crois que c'est une belle, Dominique, c'est une belle façon de dire, résumer.
Est-ce qu'on peut avoir des exemples de cette littérature mal foutue Tout à l'heure, on parlait d'axes. Alors c'est vrai que ces axes sont rétrospectifs, finalement constitués peu à peu, mais est-ce que l'un ou l'autre ou les deux d'entre vous pouvez nous donner de très brefs extraits qui permettraient d'ouvrir un peu l'éventail des choses
par
parues
exemple,
un peu de grave, un peu d'humoristique. Oui,
par exemple, si on prend Itonaga, ce livre qui s'intitule « Je sais ». Alors voilà, une tonalité, par exemple. « Je sais qu'il est étrange que dans une phrase, la place des mots soit si importante. Je sais que pour expliquer ceci, on citait comme exemple dans un ancien manuel « Je porte de la soupe à mon père qui est malade dans un petit pot. Je sais que ce soir, j'avais de la répartie et que j'étais en forme pour me friter avec quelqu'un, mais je n'ai trouvé personne. Dommage. Je sais qu'au lieu de dire « Votre chien aboie la nuit et m'empêche de dormir », il a commencé par « Ce serait trop bête de se disputer à propos d'un chien. » Je sais qu'ils ne se sont pas disputés.
Merci. Alors, voilà. Alors ça, c'est la veine humoristique.
Voilà, c'est la veine grave, de distance alors, et en même temps...
Veine grave, on entendra des exemples tout à l'heure, mais avec Marie Cosnet
et
avec Philippe Ramy, mais voilà. Un autre auteur peut-être.
Bah oui, enfin, je pensais... je pensais à un texte de Daniel Basset, qui n'est pas ici particulièrement dans la veine grave, mais qui est dans la veine que je dirais... puissante de Basset. Elle parle de sa terre natale, elle parle du Berry, elle écrit « Ici, la terre est toute puissante, lourde, plate, visible à des kilomètres et de toutes parts, remuée par les labours, miroitante, découpée par les haies, mouchetée de touffes d'arbres, de forêts, nourrie par ses corps que l'on glisse avec des cordes jusque dans son sein. » La terre sur laquelle on peut aller indéfiniment, couverte par un ciel horizontal sans bord, et dans laquelle, saison après saison, très lentement, les morts s'enfoncent sous l'œil de pierre des buses.
Merci, un très beau texte. Oui. Et alors, c'est plus difficile parce qu'un texte narratif, forcément, se mesure et s'apprécie dans la longueur de son déploiement, mais un extrait de cette troisième voie.
Je ne sais pas, là, on va en entendre tout à l'heure, plus particulièrement, avec, puisque tu
avec
vas
Marie Cosnay, oui.
Avec Cosnay, mais
Dubost.
Oui, mais Dubost, c'est un texte assez assez étonnant qui s'appelle Fonderie. Je ne sais plus où il est. Je ne sais pas si vous l'avez noté, pourtant. Ou, par exemple, tenez, un autre auteur, ça c'est la grande prose, par exemple la grande prose classique, un peu héritée de Bonnefoy, si on veut. Mais par exemple, c'est un texte, passage de Hubert Voynier dans un livre très étonnant qui s'appelle Le Morateur. Alors il écrit « Aux membres du tribunal qui lui réclamaient instamment des comptes pour toute une existence gâchée à ne rien faire d'autre que traîner indéfiniment, paresser et dépenser son temps en pure perte, ou bien encore s'employer à toutes sortes de choses futiles dont il avait même oublié la nature exacte et jusqu'à la raison d'être, au lieu de vaquer à des occupations profitables à tous selon le système de valeurs et de lois en vigueur ici-bas, le prévenu avait fini par déclarer simplement « pour toute réponse en guise d'explication ou de justification un tant soit peu acceptable à son comportement, laissez-moi rêver tranquille. »
Merci. Vous voyez, c'est des choses extrêmement différentes, effectivement, et du côté de cette grande langue, on pourrait aussi évoquer l'un des titres parmi les premiers, La naissance du récit, de Patrick Guillon. Enfin, il y a des textes qui sont méditatifs, des textes discursifs, narratifs, poétiques, et souvent, ce sont des textes qui mêlent en fait, ces différentes voies. Alors, pour aller un peu plus loin, peut-être, est-ce que vous avez discerné vous-même une sorte d'évolution, on vient de le dire un petit peu, puisque des axes sont affirmés, peut-être affermis aussi au fil du temps, mais une évolution de la collection depuis les années 91 et jusqu'à aujourd'hui, et une évolution qui pourrait se mesurer aussi au type de manuscrit, peut-être, que vous recevez. Est-ce qu'il y a des inflexions, des infléchissements qui sont perceptibles ?
Moi, je n'ai pas tellement le sentiment. Hein. Je ne sais pas ce que Jean-Pierre en pense, mais je n'ai pas tellement le sentiment. Non, qui est... Je crois que, puisque on parle de coulée, d'axe, je crois qu'il y a des choses qui se sont précisées, c'est-à-dire qu'il y a des livres qui rentrent plus ou moins dans ces... dans ces genres, enfin, dans ces climats, comme on disait tout à fait autrefois. Mais je n'ai pas l'impression, non, moi, qu'il y ait... je réfléchis en même temps que tu poses la question. Mais...
Non, ce qui est certain, ouais, c'est que on a notre intuition de ce qu'est la collection et s'est affinée. Oui. Au début, on était incertain. Oui. La preuve, on avait beaucoup, beaucoup discuté sur un texte que je trouvais excellent et pour lequel je me suis beaucoup engagé, celui de Caligaris,
oui,
au tout début, qui était, oui, très flacate. Et en fait, Jean-François, assez vite, on en a discuté, etc. On s'est dit, non, mais c'est pas, il n'a pas sa place dans cette collection, c'est des nouvelles. Mmh. Alors moi, j'ai beaucoup bataillé en disant, non, non... Ouais. Avec beaucoup de conviction et de mauvaise foi, non, non, c'est pas vraiment des, ouais, c'est pas vraiment des nouvelles. C'est justement, ça peut tirer vers la nouvelle, mais c'est pas typiquement des nouvelles. Bon, je reconnais avec le, je crois qu'aujourd'hui,
ouais, on le prendrait.
C'est un très bon texte, ouais, hein, ouais. Et puis ouais, c'est un des premiers textes de Caligaris, donc on peut pas, on va pas être, on sait le parcours qu'elle a fait, qui est assez admirable. Donc, mais en même temps, aujourd'hui, je sais pas si on le prendrait. Voilà. Ouais. On est plus sûr de ce qu'on veut dans le non prévu, dans l'impréparé. Et c'est curieux, ça. Parce que maintenant, on a un flair commun assez étonnant. Quoi.
Alors justement, avant de venir à votre flair commun, et peut-être à vos nez différents cependant... Il me semble, moi, j'ajouterais volontiers un quatrième axe. Alors, peut-être que vous le mettez dans la veine humoristique, mais c'est cette réflexion sur le langage que donne à lire certains des textes. Vous parliez de fonderie tout à l'heure. Ouais. Il y a tout un lexique, là, qui est revivifié, parfois un peu inventé, d'ailleurs, dans ce livre. Je pense aussi à « Je s'adresse » de Galland. Ouais. Il y a aussi cette dimension de la littérature qui se regarde, qui se goûte, comme telle, quoi, qui s'approfondit, qui joue avec elle-même, non ?
Oui, même Ravella, ouais, qui a un jeu ironique, Ravella, sur le genre, là, plutôt, ouais, sur le conte, etc. Ouais. Enfin, moi, j'ai une grande jouissance à ça. Hein, comme
mais en même temps, je crois que c'est une espèce de fondement de tous les textes qu'on comprend. Parce que tu dirais ça, ou tu diras ça peut-être de Cosnay, par exemple, aussi bien que que de Rami, je veux dire. C'est,
ce oui, mais chez de, on y viendra tout à l'heure. Tous les deux, langue, mais chez, oui. chez Marie Cosnet et Philippe Rami, il me semble qu'il y a un autre objet et qu'il y a cette traversée de la littérature, une sorte de questionnement du mot dans sa pertinence ou non à saisir l'objet, alors que dans Fonderie, on sent qu'il y a vraiment une attache au mot pour lui-même, par exemple. Mais...
Oui, moi, je suis assez de cet avis, parce que Je s'adresse, dont tu parlais aussi, c'est encore un autre... Je me dis que la collection, aujourd'hui, avec le recul sur ces 19 années, fait un inventaire assez précis de toutes les types de recherches dans la langue. C'est-à-dire, si je parlais de matière textuelle, on voit des expansions qui sonnent comme Voynier... On voit du travail qui est dans le fragment, dans l'émiettement, mais regardez, par exemple, Ricard, c'est encore autre chose. Dans Ricard, on est dans une rythmique orale.
Donne le titre, quand tu peux évoquer l'auteur, parce que tout le monde le connaît.
En un seul souffle.
En un seul souffle, dont le titre dit pas mal de choses. Bon, c'est vraiment, on pourrait dire, une sorte de textualité orale, écrite pour l'oralité. Et c'est encore. Et je pense que, du coup, ça serait pédagogiquement très intéressant de dire, tiens. Sur l'ensemble des textes, à chaque fois, il y a une des particularités de la
poésie. L'un des visages de la littérature d'aujourd'hui. Alors, vous parliez de flair commun, mais entrons un peu dans la cuisine. Est-ce qu'il y a des différences entre vous? Est-ce qu'il y a des textes qui ont été soutenus par l'un, mordicus, contre la perplexité ou les réticences de l'autre?
C'est arrivé extrêmement rarement, mais vraiment très, très rarement. Peut-être une fois ou deux les 42 livres qu'on a publiés.
Alors, le dissensus portait sur quel aspect? Parce que c'est peut-être délicat de donner le nom, mais au moins de...
Hein, je me souviens plus. Bon. Je ne serais pas capable de dire sur lequel on... Alors, sur ceux qui sont publiés, je ne crois pas qu'il y ait eu de dissensus, non. Sinon ils ne seraient pas publiés.
Donc ça signifie que s'il y a eu un dissensus, ce n'est pas publié. Il faut que le manuscrit ait le double accord bicéphale des directeurs.
Oui, on ne va pas rentrer dans...
Si.
Je sais que, par exemple, puisque vous voulez qu'on rentre dans la cuisine, je sais que, par exemple, moi, j'ai eu, à un certain moment donné, des réticences à l'égard de l'écriture d'un écrivain que j'aime beaucoup et qu'on a publié, je ne sais pas combien de fois, je l'avais noté, je crois, mais... c'est à propos du premier livre de Voynier. Voilà. Il y a eu ça... Enfin, j'ai discuté parce que je trouvais que c'était une prose trop classique, trop rhétorique, trop complaisante à l'égard de sa propre pratique et de sa propre rhétorique. Mais finalement, on a publié Voynier.
Oui, parce que là, j'ai beaucoup défendu Voynier. Parce que justement, faut qu'il y ait Voynier à côté de Fonderie, c'est ça le problème.
Voilà, il n'y a jamais eu non plus de clash. Au contraire, ce qui est très étonnant, c'est qu'au contraire, on est en général parfaitement d'accord.
Alors, est-ce que vous retravaillez lorsque vous avez un manuscrit qui vous séduit, mais qui vous semble peut-être, par certains aspects, encore un peu inachevé ou qui pourrait être amélioré? Est-ce que vous le retravaillez avec l'auteur? Dans ce cas-là, question subsidiaire, est-ce que c'est l'un d'entre vous qui décide de prendre en charge ce dialogue, ou est-ce que ça se fait justement dans une discussion à trois?
Non, comme on publie deux livres par an, on se répartit le travail en général. Donc il y en a un qui prend un auteur et l'autre qui prend un autre auteur. Et ça, c'est la grande joie du métier pour moi. Je veux dire, c'est le reste est quelquefois un peu ingrat. Je veux dire, lire les manuscrits, c'est un peu ingrat quelquefois. Mais quand on rencontre effectivement quelqu'un dont on décide qu'on va le publier, alors le travail avec l'auteur... Enfin, le dialogue, si on peut dire, avec l'auteur, c'est là la grande richesse du...
Et les auteurs sont plutôt demandeurs de ça, ou plutôt réfractaires à l'intrusion, finalement, de quelqu'un qui n'est pas seulement directeur de collection, comme vous l'êtes tous les deux, mais qui est aussi écrivain de son côté. Comment se joue cette friction-là?
Je crois qu'on n'a jamais rencontré de réfraction.
Jamais. De toute façon, c'est l'image de Marc, non pas seulement de Grandfond, mais de Chêne. Et c'est Martine et Jean-François qui ont donné cette image d'emblée, de ce souci de que l'éditeur accompagne les textes. Et l'accompagnement, c'est d'abord un premier regard exigeant sur le texte et qui justifie l'engagement qu'on a après. Non, je dirais qu'on l'a fait systématiquement. Il y a des textes qui, en fait, honnêtement, qui impliquent moins d'intervention que d'autres. Quand je dis intervention, peut-être le mot est ambigu. un regard moins...
Il y a des questions, quoi. Enfin,
ouais, moins hein. Questions, voilà. Il y a des textes qui sont déjà presque aboutis, hein. C'est vrai. Et puis, il y en a d'autres qui demandent un travail plus conséquent. Et jamais, moi, je crois que jamais on a eu de problème. On n'a jamais eu de conflit avec un auteur à qui on aurait proposé ça. Et la plupart du temps, pour répondre à ta question, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Je crois vraiment, la plupart du temps, les gens remercient, sont contents de ce travail qu'on fait. Combien de fois on a eu des courriers pour nous dire merci d'avoir passé ce temps sur nos textes, etc. Voilà. Je crois, chef.
Maintenant, avec le recul, quand vous regardez votre collection et l'évolution du paysage éditorial, est-ce que vous diriez que d'autres lieux ensuite se sont inspirés de grands fonds pour publier le même genre de textes un peu inclassables, hybrides? Et d'ailleurs aussi, on pourrait poser la question dans le sens inverse, est-ce que vous avez l'impression que Grand Fonds a été quelque chose de complètement inédit, ou qu'il y a eu pour vous quand même d'autres modèles de collections antérieures? Je sais pas, celui qui me vient à l'esprit, c'est Fiction et compagnie, par exemple, mais est-ce que c'était présent dans votre esprit quand vous avez créé Grand Fonds, ou bien Fiction et compagnie étant plutôt du côté du narratif de fait, voire du discursif, vous avez dit on va faire la même chose plutôt du côté de la poésie?
Fiction et compagnie, c'est pas antérieur. C'est
antérieur.
C'est antérieur. Oui. Non, j'ai pas eu.
Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait déjà des espaces, quand même, au seuil notamment, quoi. Pas seulement avec Fiction. Il y avait Collection de l'Infini aussi, qui, je crois, précède le Grand Fonds. Puisque c'est la Bourgeois d'avoir publié Les 80. Immortels et tout ça. Donc, c'est antérieur. Mais c'est un peu simultané quand même, parce que ça naissait, et ça, on voit bien d'où ça vient, ce texte-là. Ça vient bien du grand tremblement littéraire des années 70, moi je crois. Donc peut-être qu'on a vraiment été parmi les premiers, on n'est pas les seuls. Est-ce que ça... Oui, ça s'est développé après. Mais alors là, franchement, autant par exemple pour Poèmes pour grandir, je suis sûr que la collection Poèmes pour grandir a servi de référence, que vraiment elle a incité beaucoup à faire pareil. En tout cas, en s'engageant sur ce chemin-là. Pour Grand Fonds, je suis moins sûr parce que je pense que de toute façon, ce serait arrivé. Voilà. Moi, je me rappelle quand, justement, je faisais allusion à ces moments où je lisais ces textes, il y en avait beaucoup. C'était vraiment un phénomène littéraire, quoi, dans les années 80. C'est arrivé de textes atypiques. Donc, si ce n'était pas Grand Fonds, si ce n'était pas Chêne, il y a vraiment, et ça s'est prouvé, il y a d'autres éditeurs. De Verdier,
depuis, vertical, tout ça. Depuis, ce type de texte, c'est quand même largement épanoui.
Voilà, exactement.
Alors, on va pas tarder à accueillir Philippe Ramy et Marie Cosnet. Et juste un peu en guise de transition, est-ce que vous vous souvenez d'une chose particulière lorsque vous avez reçu le premier manuscrit de chacun d'entre eux?
Oui. Est-ce que je peux dire juste...
Oui, pardon.
Juste une petite chose par rapport à cette collection, comme en général ça se passe à Chêne. C'est-à-dire qu'on a aussi une politique d'auteur. Je veux dire par là qu'on a publié beaucoup de livres de plusieurs auteurs et qu'il y a eu aussi beaucoup de rééditions. Mais je pensais par exemple à Cosnet... On a publié 4 livres de Cosnet, on a publié 4 livres de Voynier, 5 de Basset, 2 de Itonaka, 2 de Philippe Longchamp, enfin, etc. Donc, je veux dire que là, cette volonté de suivre les auteurs et de poursuivre leur œuvre, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Bon, alors je reviens.
Oui. D'accord, alors je repose ma question. Le choc de lecture que fut respectivement Mouvement par la fin de Philippe Ramy et Que s'est-il passé de Marie Cosnet?
Moi, je dirais, pour eux deux, ce qui s'est passé généralement pour la plupart des auteurs qu'on a publiés, pour moi, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, quand je prends un manuscrit, on en a beaucoup, ça se décide très vite. Et ça se décide en moi. Je veux dire, il y a un moment où je lis quelques phrases... Le texte, à son début, en général, je cherche pas midi à 14h, je prends le texte. Et ça se décide très vite. Dire, dans l'instant, il y a quelque chose qui prend, qui se dit. Et moi, c'est du genre, je me dis, ah oui. Dire, alors là, je le tiens, enfin, quelque chose comme ça. Non, c'est vrai. Hein, et j'ai la conviction, elle me dit, non, ça, c'est. Après, il faut qu'on continue, parce que parfois, non. Mais c'est rare. En général, comme moi, j'ai ce saisissement-là sur. Parce que qu'est-ce que c'est? C'est difficile à dire. Voilà, une écriture dont on sent qu'elle est vraiment, d'abord, qu'elle est complètement maître d'elle-même, et puis qui apporte quelque chose. C'est ce truc qui fait qu'une écriture a une tonalité singulière. On sait, c'est ce machin en plus, quoi. Et puis, quand même, assez vite, qu'on sent que c'est pas. Que on le disait tout dans la définition de la collection, que ce n'est pas un jeu, que ce n'est pas une virtuosité, que ce n'est pas seulement une maîtrise formelle. Ça, on le sent vite aussi. Parce qu'on en a eu des textes comme ça, très impeccables dans l'écriture, assez forts. Et assez vite, on s'aperçoit aussi que ça... Voilà,
que c'est dans l'artifice.
C'est dans l'artifice. Voilà, moi je dirais. Et donc, cette émotion-là, c'est vrai qu'on l'a. Alors là, pour Philippe et Marie, moi, tout à fait vrai. Je peux dire, mais il y a ici d'autres auteurs, je pourrais dire la même chose. C'est sur un fragment de 5-6 lignes du début que moi, j'ai l'impression que ça se. Il y a une commotion, si le mot ne fait pas trop, quoi.
D'où l'importance de préserver les librairies où on peut feuilleter les livres avant de les acheter et avoir cette rencontre. Ça me paraît d'autant plus important dans une période où, malheureusement, elles sont concurrencées par le titre et la couverture. Et donc, ce qui va faire décision, ça sera le dessin de couverture et non plus le texte. C'est peut-être un peu une perte de la littérature quand on achète uniquement sur les moteurs de recherche. Il y a une dernière question que je voulais vous poser avant d'accueillir donc Marie Cosnet et Philippe Ramy. Dans le texte « Mouvement par la fin », il y a, à la fin de ce texte, une postface signée de Jacques Dupin, grand poète, grand écrivain, évidemment. Mais c'est quand même un geste un peu rare dans la collection. On ne trouve pas beaucoup de postfaces comme ça. Et donc, pourquoi cette postface? Qu'est-ce qui vous a semblé là nécessaire d'ajouter au livre de Philippe Ramy?
Je pense que c'est la question. Il faudrait que tu la poses à Philippe Ramy, parce que c'est Philippe Ramy qui entretient avec Jacques Dupin des relations d'amitié. Et je crois que ça s'est passé entre eux deux. Et il nous a proposé cette postface que nous avons acceptée, bien entendu. C'est vrai que c'est tout à fait...
Bien entendu, n'est pas aussi évident que...
Non,
parce que vous pourriez, jamais... en tant que directeur, ne pas souhaiter qu'il y ait de postface.
Oui, mais ça n'est jamais arrivé autrement. Ça n'est jamais arrivé qu'un auteur vienne en disant « Voilà, j'ai une postface, mais... » Ici, une postface de Dupin qui éclaire tellement le texte, qui prolonge le texte ou qui le porte en quelque sorte, qui fait comme une sorte de point d'orgue.
Qui fait partie du livre.
Qui fait partie du livre, voilà. Ça, il y avait là. Enfin, sans doute, il t'en dira quelque chose s'il veut bien parler.
Bien, alors avant de poser ces questions, effectivement, Philippe Ramy, peut-être qu'il y a dans la salle une ou deux questions pour Jean-Pierre Siméon, Jean-Marie Barnaud sur leur collection. Vous avez répondu par anticipation absolument toutes les questions que les gens se posent. C'est merveilleux. Pas de questions? Bien, donc je vous remercie tous les deux. Et j'invite Philippe, Ramy, Marie Cosnet à venir nous rejoindre. Bon, j'avais enlevé la chaise pour faire place à Philippe, mais finalement, il se met plus loin, c'est pas grave. Bien, donc, parmi les nombreux écrivains publiés dans cette collection dont vous avez eu là une sorte de présentation un peu générale par les deux directeurs, il y a les livres de Philippe Ramy à côté de moi, donc Mouvement par la fin, qui paraît en 2005, et Demeure le corps, c'est 2007, c'est ça, Demeure le corps?
Oui. Ouais.
Et puis quatre livres de Marie Cosnet, donc dans l'ordre Que s'est-il passé, Adèle, la scène perdue, Trois meurtres et tout récemment, La langue maternelle. J'aurais dû demander d'ailleurs à nos deux directeurs pourquoi ils avaient changé la jaquette. Comme vous pouvez le constater, ça a bougé, mais on ne le saura pas. C'est l'éditeur. Bon, alors vous le demanderez en aparté à l'éditeur après la fin de la soirée, si vous souhaitez le savoir. Alors, peut-être on peut commencer d'abord, par, avant même d'entrer dans la discussion, par vous demander de lire chacun un extrait de l'un des premiers textes que vous avez fait paraître dans cette collection, ne serait-ce que pour mettre dans l'oreille de nos invités les formes de vos phrases, les rythmes de vos mots et le propos que tiennent vos livres. Honneur aux dames, Marie.
Ce n'est pas vraiment le premier texte, c'est un extrait de Trois meurtres. La ville d'enfance n'est pas une grande ville. Un oiseau jaune des îles est perché chaque matin sur une branche du Lagerstromia devant ma fenêtre. Je constate des mutations ou disparitions d'objets, à croire qu'il y a un grenier quelque part où sont les terreurs enfantines et des secrets. Dans la ville et dans l'été, une jeune fille a été retrouvée morte sur son lit, assassinée, et rien n'indiquait que quelqu'un eût passé la porte de son appartement, traversé les murs. Aucune arme, aucune empreinte, aucun signe. Et j'avais écrit trois meurtres sur la première page d'un nouveau document, et c'était sans savoir. À Paris, Pierre M., la nuit du 27 août 2003, s'est donné la mort, absorbant comprimés et bouteilles de whisky. Si l'on veut faire le trajet, jusqu'à l'ami mort le trajet, dans la nuit on s'arrête longuement. J'ai pensé aux cheveux sur l'oreiller, à tout ce que je n'ai pas vu. J'ai tellement pensé à la douleur qui précède et aux gestes qu'il faut pour boire et avaler, s'allonger, pleurer encore une dernière fois dans le doute et même pas l'illusion d'un repos. J'avais déjà pris avec moi les moments de la fin, ou si la honte ou faute d'avoir écrit que la mort cet été nous épiait, sans avoir à temps pensé précisément à lui. Le trajet vers lui menait à l'évidence du trou noir, il était mort, c'est tout. Si je lui avais parlé tout mort qu'il était, c'est à moi que j'avais parlé, il avait disparu. Si j'avais pensé des choses sensibles de notre passé commun, je n'avais rien pensé du tout. Et la nuit, le suivant, j'ai disparu. J'ai bien vu la mort, la mienne, dans la sienne. À force d'être insupportable, sa mort précise, unique, menait à la mort, simplement. Je ne peux pas ressaisir les étapes. C'est un défaut. Écrivant, j'écris l'absence et aussi l'oubli de lui, en quelque sorte. Cette nuit, il n'était plus. On n'avait que faire des deuils. J'ai mené ma mort, les nuits qui ont suivi la sienne.
Merci Marie. Donc c'était un extrait de Trois meurtres, qui est le troisième livre en fait de Marie Cosnet, paru aux Éditions Chênes en 2008. Et donc Philippe Ramy.
Je me résous à parler, puisque cela aussi sera emporté. Quelques minutes avant mes plus longues crises, je vois distinctement. Car la joie est alors mon seul besoin. Des trombes d'eau s'abattre par une ouverture du plafond et, dans la mer d'orage, se déplacer la masse noire d'un soleil. Mon lit porte un corps à peine redressé. Ce corps est un angle où ton regard se déchire. Dans sa plaie, il vit. La tête te fixe. L'épaule gauche est bandée, elle saigne abondamment, le bras est tendu, un fer le traverse, la main est posée sur les organes génitaux, elle tient un drain où caillots et cristaux coulent avec l'urine. L'autre main écrit machinalement dans un cahier à couverture noire. L'abdomen est proéminent, les hanches crevées par l'escar, les jambes en lames sont recroquevillées à plat, comme la drogue les a fauchés. Aujourd'hui s'achève, sans infléchir, une crise qui prolonge sa veille. Ma chambre est au courant d'air, l'océan vient, je suis sa lumière et son cri. Le sternum est découpé pour une intervention sur le cœur qui bat un rythme de métal, un tuyau jaune guêpe est planté dans la gorge, il crache les antibiotiques à l'intérieur d'un ventricule. Je m'autorise une injection dont le pouvoir ne désagrège pas la douleur, mais la couvre d'une peau qui m'isole pour un temps dans un corps d'où je peux écrire.
Merci Philippe. Vous avez vu que ce sont des textes alors, qui peuvent illustrer cette veine grave. Hein. Je pense que
évoquait tout à l'heure Jean-Marie Barnaud. Avant de revenir proprement à vos œuvres respectives, j'aimerais quand même qu'on poursuive un petit peu la discussion sur la collection, sur les éditions Chêne aussi, puisque c'est autour d'elles que nous sommes rassemblés. Et la première question assez évidente, c'est pourquoi Chêne? Pourquoi est-ce que c'est à Chêne que vous avez envoyé votre manuscrit? Qu'est-ce qui vous a semblé là de disponible pour accueillir votre propre travail, forcément différent de ce que vous y avez lu, mais en même temps avec peut-être suffisamment de connivence pour qu'il y ait cet effet de reconnaissance? Comment est-ce que cette décision s'est prise, Marie?
Moi, j'avais la chance d'aller souvent dans une librairie à Biarritz qui s'appelait le Bookstore et où il y avait tous les livres de Chêne il y a très très longtemps déjà. Et je crois que j'avais rencontré Tombeau de Daniel Basset et puis après Christiane Véchambre, Les mots pauvres et puis d'autres livres et puis voilà.
C'était évidemment le fait que tu pensais que ton texte s'inscrivait dans cette lignée-là, dans cette perspective, qu'il y avait une affinité?
Oui, j'espérais, oui.
Bon, Philippe?
Les circonstances qui mènent à bon port sont hasardeuses. Je voulais juste dire une première chose qui était, lorsque j'entendais nos deux directeurs de collection parler de leur rapport et de leur attention à ces voix qui tutoient la marge, à l'intérieur, à l'extérieur ou en équilibre sur la marge. Du point de vue de celui qui écrit, en tout cas du mien, la chose est beaucoup plus simple parce que j'ai l'impression que lorsque l'on est publié, on n'est plus dans la marge. On est dans la marge lorsque on est perdu avec ses paperasses et ses phrases explicitement écrites ou non. Et un jour, on entre dans une tradition. Un jour, le cercle s'ouvre et peut-être très bêtement, on se trouve assis autour du feu avec d'autres et quelque chose se produit. Et c'est ressenti comme étant la position complémentaire de celle de la collection qui accueille ces chiens aux dents étincelantes mais mal ficelées, je ne sais plus quelle était l'expression, dans laquelle je me reconnaissais et je me reconnais toujours plus, et en même temps le sentiment d'être du coup assis dans un centre sans doute inassigné, sans doute indéfinissable, mais quand même.
En fait, quand tu dis ça, tu joues sur deux sens du mot marge. Enfin, il y a un sens qui était évoqué tout à l'heure à cette même table, qui est plus un sens de détermination littéraire, de catégorie esthétique peut-être, de genre. Hein, et les textes, effectivement, que vous écrivez l'un et l'autre, que publie Grand Fond, sont des textes qui demeurent, pour le coup, dans cette marge, même si cette marge s'élargit grâce au Grand Fond, si ces fonds sont de plus en plus profonds et de plus en plus inépuisables. Puis il y a une autre marginalité qui est celle de l'écrivain qui n'est pas reconnu, de l'écrivain qui n'est pas publié et qui, tant qu'il n'est pas publié, n'est pas écrivain, du moins ne l'est pas aux yeux des autres et ne l'est peut-être même pas à ses propres yeux, c'est pas la même chose. Mais en nouant l'un sur l'autre, ce que tu fais entendre, c'est qu'il y a peut-être un rapport entre ces deux situations, que le fait de ne pas se penser dans la littérature favorise l'écriture de ces textes hybrides, de ces textes différents. Et puis l'autre chose que tu fais entendre aussi, je te donne pour le suite, c'est cette empathie, enfin cette sympathie même, cette espèce de partage qui est l'une des définitions non seulement de la collection mais peut-être de la maison Chêne. C'est une maison où il y a effectivement des échanges qui vont au-delà du simple travail éditorial et travail d'écriture, où il y a, on l'a entendu, une discussion avec les auteurs, mais aussi une espèce de famille un peu improbable qui se constitue au fil des années. Mais Marie, je t'ai coupé la parole.
C'était juste pour dire que ce que j'avais entendu de ce que tu disais, c'était qu'on est... En effet, dans ce hors-lieu, dans ces marges, etc., que ça finissait par fabriquer un lieu avec la convivialité que tu dis, la chaleur, et puis, et voilà. C'était, c'est Alors en effet, on se sent un peu hors lieu, en marge, peut-être pas par la difficulté qui est celle d'écrire en fait. Mais là, on est ensemble dans un lieu, qui est un lieu, une maison.
Alors justement, est-ce que vous pouvez dire un mot, mais de votre point de vue d'auteur, pour le coup, de cette écoute qui a peut-être été offerte à votre égard par les deux directeurs de collection. Est-ce que ça, et plus précisément, il ne s'agit pas simplement de dire c'était bien, c'était chaleureux, je les en remercie beaucoup, mais de dire est-ce que ça fait bouger quelque chose de votre premier texte ? Est-ce que vous avez eu l'impression que dans le dialogue avec Siméon et Barnot, quelque chose de votre texte s'était déplacé, avait mûri, s'était recomposé autrement ? Comment est-ce que vous avez vécu ça et comment vous l'avez vécu littérairement, bien sûr ?
Oui, en fait, ce que disait tout à l'heure Jean-Marie, j'ai trouvé ça très juste. Il disait, en fait, c'est pas tellement, ça n'a rien à voir avec de l'intrusion. En fait, ça n'a rien à voir. Ce sont des questions. C'est des questions posées. Ça n'a jamais été. C'est jamais. Et alors, évidemment, la question posée fait qu'on cherche une réponse et qu'on cherche. Et ça permet de travailler soi-même, en fait, de retravailler, de travailler soi-même. Ça a été, et ce sera précieux.
Plus précisément, tu peux nous dire sur un détail d'un texte ou sur un souvenir que tu en as gardé, quelque chose qui a pu être un moment décisif ou déclencheur ?
C'est difficile. Avec Jean-Marie, on a beaucoup travaillé sur Que s'est-il passé et Adèle, la scène perdue. On a énormément retravaillé. Beaucoup de questions de... Alors déjà que la narration est déconstruite et les pronoms personnels aussi peuvent... Alors des questions précises comme ça sur les pronoms, sur... Est-ce qu'on comprend ? Est-ce que c'est ça ? Voilà ce qu'on comprend. Est-ce que c'est vraiment ça que ? Des questions comme ça.
Et toi, Philippe ?
Il faut que je prenne un peu de recul parce que l'arrivée à Chêne s'est faite par la voie détournée du numérique. Le basculement dans l'écriture s'est fait via Internet. Via un site qui a été créé par François Bon, qui s'appelle remu.net, qui est devenu aujourd'hui une chose magnifique, avec une rédaction d'une trentaine d'écrivains. Et j'ai eu l'impression que Internet était l'endroit, le lieu, où une plainte ou un tâtonnement, les premiers tâtonnements de l'écriture avaient un espace... qu'il aurait été possible sans autre exigence que la confiance en fait et que lorsque je suis arrivé à Chêne parce que Jean-Marie Barnot était également sur remu.net, ce qui a commencé à s'élaborer gentiment dans ces tâtonnements clandestins dans le fond sur la toile s'est prolongé avec une sorte, avec un naturel évident, et un texte est venu à travers l'écriture fragmentaire et plus décousue ou sans réel projet autre que de s'ébrouiller elle-même, est né progressivement un texte cohérent dans le rapport personnel avec Jean-Marie.
Donc là, pour le coup, le rôle de l'éditeur, enfin du directeur de collection, n'était pas simplement un rôle de maturation du texte, mais aussi favoriser, si je t'entends bien, la venue du texte, l'accouchement du texte. Ouais. Bon, alors vous nous dites beaucoup de choses, de tout le plaisir et le bonheur que vous avez avec la collection Grand Fond, et en même temps, vous êtes des amis très infidèles, il faut bien le reconnaître, puisque vous êtes allé publier ailleurs. Et donc, je voudrais quand même y voir un peu clair dans cette affaire. Qu'est-ce qui fait, Marie, que en ayant publié des textes chez Chêne, d'autres sont proposés à d'autres éditeurs? Je pense à la Villa Chagrin pour Verdier, ou des textes chez Laurent Stepper. Et puis ensuite, tu reviens chez Chêne. Est-ce que ça signifie que lorsque tu écris un texte, tu as le sentiment qu'il trouvera sa place ou ne trouvera pas sa place dans la collection Grand Fond, qu'il y a des modalités d'écriture chez toi diverses et que chacune de ces modalités reçoit, accueille chez un éditeur ou chez un autre? Comment est-ce que ces partages se dessinent dans ton esprit ?
En fait, oui, c'est compliqué, je me le demande aussi, mais en se posant cette question, forcément, je dois me poser la question qu'est-ce que c'est par rapport au roman, par rapport au genre de ce que j'écris. Et certainement, certainement que les textes, bon, André des Ombres, c'est plus évident, c'est plus simple de le dire, mais même dans Se demande tout, qui sont les deux textes parus chez Laurent Stepper, essai, en tout cas, même si je crois qu'au bout du compte, c'est les mêmes recherches, mais essai de filer de trouver du narratif, enfin, d'être narratif, de raconter. Et dont les personnages sont peut-être. Je ne suis pas très sûre, mais en tout cas, il y a peut-être une volonté ou une tentative de continuité plus grande dans la narration d'un côté. Mais je me demande aussi, je peux me poser la question.
Tout à l'heure, avec Jean-Marie et Jean-Pierre, on esquissait cette espèce de définition très labile de la collection comme celle qui accueille des textes qui savent s'émanciper d'une matrice plus ferme, plus génériquement dessinée, roman. Poésie, etc. Et est-ce que pour toi, parce que tu te reconnais dans cette espèce de partage-là, est-ce que tu offres ou proposes à grand fond des textes qui sont plus du côté de la liberté, de l'émancipation, et que lorsque le texte se cristallise plus autour d'une forme générique, alors tu te dis c'est pas pour grand fond, c'est pour ailleurs.
Ça oui, une sorte d'intuition que c'est pas. Oui, c'est ça.
Et tout, enfin, je le dis pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore l'extrême chance d'avoir lu les livres de Marie Cosnet, c'est qu'en même temps, il y a une très grande cohérence dans cette œuvre. C'est-à-dire qu'on retrouve des figures, des tonalités, mais même des rythmes de phrases. Enfin, ça se joue aussi bien dans la langue que dans les éléments thématiques des livres qui circulent. Notamment tout à l'heure, vous avez entendu parler de façon un peu esquissée de ce suicide d'un ami. On voit cet ami réapparaître dans d'autres livres publiés ailleurs et on peut suivre le même fil, en fait, d'un éditeur à l'autre. Alors, Philippe, je te pose un peu la même question, puisqu'il y a deux livres qui sont parus chez Chêne et puis ensuite il y a deux livres qui sont parus en forme numérique dans la collection Publi.net, créé justement par François Bon, que tu évoquais tout à l'heure. Et donc, et puis il y en a un autre, Cellule Souche, qui vient de paraître encore ailleurs. Donc, comment, pour toi, se dessinent ces différents lieux, ces partages? Qu'est-ce qui fait que tel texte va ici plutôt que là?
Alors, j'ai l'avantage de travailler très, très doucement, très lentement, si bien que, pour l'instant, je dirais, les deux seuls... les deux seuls textes que j'ai écrits en y mettant toutes mes forces sont les deux qui sont parus chez Chêne. Le petit chose de Cellule Souche était un appel pour travailler avec un ami peintre. C'était des fragments, et les textes numériques sont pour l'un une chose qui était née sur Internet il y a des années et l'autre aussi. Donc, dans le fond, la question du genre ne se pose pas directement pour moi. J'ai plutôt l'impression que le cadre de la collection Grand Fond étant tellement, je dirais pas élastique, mais appelant tellement aux proliférations et au décrochage de langues, que je me pose plutôt la question pour le prochain texte, pour le travail en cours, du trajet qui mène en aller-retour entre la vie vécue et la vie rêvée, ou comment de deux premiers textes qui prenaient le corps comme centre ou comme levier pour soulever la langue, comme me l'a dit un jour mon ami Dominique Tussidour, de savoir comment cette écriture de la vie réelle soulevée dans le langage, on en arrive à l'écriture de la vie rêvée aplatie par la langue, et donc à explorer ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir qu'est-ce que signifie le bien écrire, est-ce qu'il est possible en écrivant de conquérir une position théorique qui nous donne l'impression d'être du mauvais côté de la barrière pour oser des formes qu'on n'oserait pas lorsque l'on se voit écrire ou lorsqu'on se sait admis dans une maison d'édition.
C'est intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'évidence littéraire des textes. Comme si je t'entends bien, lorsque la phrase, l'écriture se dépose sur le papier, et j'ai envie de dire sur quel papier, parce que le papier de chêne sont quand même de très beaux papiers, et puis il y a tout un travail, non seulement d'édition, mais d'imprimeur, hein, avec une qualité typographique très, très forte, comme s'il y avait là, par la matérialité même, l'exigence, cette matérialité, le souci d'une esthétique un peu plus soutenue, alors que dans d'autres textes, et je pense notamment à ce livre que tu as publié sur Publi.net qui s'appelle SMS de la cloison, qui sont des textes très brefs. Et alors, il faut peut-être dire aussi un peu d'où viennent ces textes, puisque tu les présentes comme des textes qui sont écrits alors que tu étais obligé d'être allongé sur le côté, donc dans une position très peu favorable à l'écriture, et tu ne pouvais que taper sur le clavier d'un téléphone pour ces SMS qui ensuite sont recueillis et sont publiés de façon numérique. Et du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est finalement, est-ce qu'il n'y a pas dans le choix d'une édition numérique pour ces textes-là, le souci de conserver quelque chose de l'analogie avec le geste d'écriture qui fut le leur, et qui est bien différent de celui d'écrire sur un cahier, tu parlais du cahier noir tout à l'heure. Donc est-ce que le partage se dessine pour Marie autour de cette question des genres et de la liberté qu'on prend par rapport à eux, est-ce que pour toi ça se situerait plutôt du côté de l'expérience même de l'écriture et de la façon dont elle s'est conçue?
Il y a à coup sûr un effet très grand de l'outil sur ce que j'écris, et le support influe à l'évidence, extrêmement fortement, ce qui va être produit ou ce qui se produit au moment d'écrire. C'est pour ça le territoire que j'aurais envie ou que je suis en train d'explorer est celui qui, dans le fond, superposerait ou ferait une concrétion du matériau dit noble et du matériau dit moins noble, mais juste pour faire ce pas de côté. C'est ce que je pourrais ramener à ce désir d'écraser le langage dans la vie rêvée. Moi qui suis un type qui n'a pas beaucoup bourlingué et qui suis quelqu'un d'assez immobile, je me suis beaucoup rêvé journaliste freelance, ne sachant pas faire deux phrases, étant un écrivain du dimanche qui se satisfait de deux, trois paragraphes mal torchés avec emphase dans un vague canard. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce désir d'être à l'extérieur lorsqu'on le retient et qu'on le travaille jusqu'à ce qu'il soit acceptable pour le texte imprimé, mais pas acceptable du point de vue de l'éditeur, acceptable du point de vue de l'écho de, on peut dire un grand mot, de l'écho de vérité qui nous traverse.
Il y a quelque chose de très, très intéressant aussi du point de vue de l'évolution de tes textes, ne serait-ce que du premier livre au second chez Chêne, dans ce que tu dis. Il me semble que les deux livres évidemment font une très grande place à la douleur physique, à la souffrance avec laquelle il faut vivre, qu'il faut traverser. Mais dans le premier, on a le sentiment qu'il y a, la juxtaposition à la fois d'un creusement de cette douleur et puis d'une ouverture au monde, à la lumière, au dehors, que tout cela, effectivement, s'inscrit assez bien dans l'univers de Chêne, d'autant plus que la traversée de la douleur est aussi une interrogation sur l'identification que le sujet lyrique, comme on dit à l'université, mais le poète et donc Ozon, toi-même, peut éprouver. Cette recherche aussi peut-être d'une essence de la douleur au-delà de l'existence malmenée. Et puis, dans le deuxième livre, la violence se débonde. Elle est beaucoup plus âpre, le texte est plus intime, y compris sexuellement, plus névralgique, plus organique, me semble-t-il. Et l'écriture, elle aussi, n'est pas la même. Je vous lis simplement le tout début de « Demeure le corps ». Vous avez entendu tout à l'heure le tout début de « Mouvement par la fin » et vous pourrez juger de la différence. Ça commence ainsi. « Va te faire foutre ». J'arrive au terme de cette histoire écrite sans souvenir, malade. Je me présente nu, sans effort ni stratégie, avec l'ambition d'une honnêteté absolue. Je suis fils de te haïr. Cette ouverture, ce « va te faire foutre », évidemment, a priori, n'est pas dans l'univers d'une esthétique très, très élaborée, d'une rhétorique très soignée. Et en même temps, quand on l'entend, moi, ce qui m'est venu à l'esprit tout de suite, avant même d'avoir lu la suite, c'est les échos d'une des plus grandes œuvres de la poésie du XXe siècle. Je pense au cahier d'un retour au pays natal de Césaire, qui commence par « Va-t'en », lui disais-je, « gueule de flic, gueule de vache, va-t'en, mauvais gris-gris, punaise de moignon ». Puis je me tournais vers des paradis pour lui et les siens perdus. Et donc on a là une façon de pousser la littérature à la limite d'elle-même et de faire entrer presque de force, par violence sinon viol, tout cet espace que tu disais tout à l'heure rester quand même dans le dehors de la littérature. Est-ce que ça se joue comme ça? Non, mais c'est à toi que je parle. Est-ce que ça se joue comme ça pour tes textes?
Ça se joue comme ça avec l'ambition de... Si l'idée, c'est que la littérature soit le lieu dans lequel on puisse faire entrer non seulement le trivial, le banal, le modeste, mais de les faire entrer de manière triviale, banale et modeste, sans que ce soit...
Trivial, banal, ni modeste.
Voilà. Voilà. Alors là, il y a une marge qui prend toute la place. On se fait à ce moment-là moisissure, ciron, hache et tout ce qu'on voudra pour voir jusqu'à quel niveau de ratage on peut encore réussir à faire une chose sans que personne ne se rende compte dans le fond qu'il y a là que du ratage. Et c'est évidemment, ce sont les cuisines mentales qui n'ont pas d'autre intérêt qu'un jour d'amener un texte.
Mais sans vouloir vous écraser sous des noms prestigieux, il me semble que les plus belles œuvres de littérature sont quand même des œuvres ratées. Et c'est ce en quoi elles sont magnifiques. Enfin, qu'on pense à Beckett, que l'on pense ne serait-ce qu'aux Vies minuscules de Michon, par exemple, qui se construit sur l'impossibilité d'écrire ce livre. Chez toi, Marie, il me semble qu'il y a, puisque j'en suis en train de parler un peu de l'évolution des livres publiés chez Chêne par l'un et par l'autre, un glissement qui procéderait d'abord de ce questionnement, que s'est-il passé, c'était le titre du premier livre, de ce flou, hein, de quelque chose qui est très évocatoire, mais jamais suffisamment précis, jamais suffisamment net, d'un texte et peut-être d'histoire qui se dérobe au lieu de se donner, à quelque chose qui est, dans la langue maternelle, beaucoup plus noué, où on n'est plus dans une esthétique entre guillemets ou dans une pratique une poétique du flou ou de l'esquisse, mais dans quelque chose qui semble beaucoup plus replié sur elle-même, sur soi-même, froissé, noué, et l'espèce de difficulté que peut avoir le lecteur n'est plus celle d'essayer de comprendre que s'est-il passé, mais de dénouer cette chose qui semble tellement, tellement écrasée sur elle-même. Et du coup, je me suis dit que peut-être pour toi, Grand Fond, c'était le lieu idéal où pousser toujours plus loin une certaine recherche d'écriture. Est-ce que tu l'éprouves comme ça?
Oui, mais je le réalise en faisant. C'est pas quelque chose qui c'est pas un projet ou un programme. Enfin, je sais pas. Mais ce que tu dis sur la question, que s'est-il passé ou l'énigme de départ. Peut-être que dans les premiers textes, dans Que s'est-il passé ou Adèle ou encore Trois meurtres d'une autre manière. C'est dans l'éclatement qu'on trouve, qu'on cherche, qu'on trouve pas, mais qu'on cherche même la question. Alors que dans la langue maternelle, ce que tu dis nouer, c'est peut-être parce que c'est plus dans le, dans le continu.
Le recentrement sur une seule figure. Où il n'y a pas trois meurtres, en fait, il y a une seule relation.
Il y a une seule relation et qui est déclinée trois fois, enfin qui est trois fois dite. En fait, c'est le mouvement opposé, mais le même, enfin, la même question, au fond.
Tu peux nous dire ce que c'est que cette langue maternelle? Parce qu'il semble, en lisant le livre, que c'est tout sauf ce qu'on appelle la langue maternelle.
Oui, voilà, oui. Ben, c'est parti de quelque chose de, qui n'est pas du tout anecdotique, mais qui est... comment dire? J'ai rencontré beaucoup de gens de mon âge qui, au Pays Basque, qui parlent basque, et qui revendiquent le basque comme leur langue maternelle, et qui sont des hommes d'une quarantaine d'années qui ont eu des pères extrêmement violents et extrêmement humiliés, et donc violents, enfin bon, on pourrait en parler longtemps, mais c'est compliqué. Et on se rend compte en parlant et en comprenant les choses petit à petit que la langue maternelle, le basque, c'est pas du tout la langue de la mère, puisque en général les mères leur parler français pour que à l'école ça marche et tout ça. Et donc c'était vraiment la langue du père. Et ce rapport à la langue maternelle, aimée, haïe, adorée et langue humiliée, voilà, c'était l'origine, mais anecdotique presque, de ce texte. Après, c'est autre chose, le texte aussi. Mais voilà.
Merci. Peut-être vous pourriez justement faire entendre un peu chacun maintenant où vous en êtes, ou des textes plus récents que ceux lus tout à l'heure pour donner idée de ça. Tu parlais de langue maternelle, peut-être en passage.
Oui. Le récit irait dans l'émiettement comme le paysage y avançait. Parfois même il se jetait à ma figure, paysage et récit, ne tenant compte d'aucune critique ni angoisse que je leur opposais. Et encore, je ne peux plus dire « je », mais « sec et sombre cela ». Sèche et sombre la chose qui se déplace encore, mais rampante, ou le menton collé à quelque chose, mur, bord de fenêtre, table, ou sentir le bois verni. Je ne peux plus dire « je », mais l'endosse courageusement la chose. Après que je l'ai portée à la fenêtre, je lui couds les paupières ou quelque chose de semblable. Les yeux clairs s'écarquillent, je couds les paupières aux arcades, elle y voit clair la chose. Le paysage se jetait à la figure de ce que j'étais devenue. Les mains, je les agrippais à la table de bois de chêne verni, au mur de papier peint décollé, au chambranle de la fenêtre. Je griffais plusieurs fois, en vain, mais gardant le sens de griffer, agripper. Sèche et sombre la chose, comme dans la pièce réduite, le réduit de mourir, quand vient l'heure et sonne, comme cela était fatal, commun, et littéraire, l'heure sonnait. J'avais pourtant un jour, littéraires ou pas, entendu quelques grelots, et je savais qu'ils devaient bruire de nouveau dans des temps obscurs, infiniment à venir, obscurs ou baignés de glace, droits et pentus, dans des cieux d'avenir et des tours de cristal. Je m'agrippais. Le corps était vieux et complexe, sexué de nouvelles sortes, et après tant d'années qu'il avait officié, on l'avait rangé, en dehors des douleurs et des choix. Le corps, chose que j'avais, on le pliait, fermait, l'emboîtait quelque part. Maintenant, on le plaçait à la fenêtre pour qu'il y vît, les yeux cousus, paupières aux arcades. Et bâton des jambes, sur quoi quelques plaies vomissaient. Bâton plié en trois, quatre, à l'infini. Bâton qui se hisse soudain, déplié, ébranlant. La chose retombait sur le sol froid qu'elle touchait de ses griffes. Quant à parler du sexe, il était celui de l'homme et celui de la femme, fermé dans les bandages, pensé, petit, soigné, une fois pour toutes, après tant d'années de complexité. Il était nul comme sexe, oublié, celui d'homme frère ou de sœur sage, celui enfin, entaillé, sanguinolent, soigné, que l'on met quelque part et qui, après les longues années complexes, parcourues, vit, de même vie que les os, crâne, la charpente, sans repos.
Merci Marie. Est-ce que Philippe, tu veux nous lire quelque chose de plus récent que tout à l'heure ?
Alors, ce n'est pas Ponge qui dirait le contraire. Il y a dans tous les textes qu'on publie 1000 textes qui passent à l'as ou à la poubelle, qui sont en filigrane. Et dans, je reprends Mouvement par la fin, et dans Mouvement par la fin, qui articule la vie réelle, il y a aussi la vie rêvée, celle où je suis journaliste en Afghanistan, freelance, et ne sachant pas faire deux phrases où les écrivains en tirent la langue pour s'appliquer bien. L'été, ajusté au trou d'ozone, s'abat durement sur la mosquée bleue de Mazar-e-Sharif. Quiconque a vécu dans cette ville sans bord a découvert une étendue qu'on ne mesure ni en distance, ni en durée, mais selon les coulées d'air. Le vent est partout en Afghanistan. D'incessants flux de température descendent les rues, transperçant chaque obstacle fixe, enveloppant les choses mouvantes, les véhicules, les piétons, jusqu'aux ordures qui voltigent. Il faut se figurer un ruisseau d'odeurs qui forme d'épaisses flaques renouvelées à l'identique par la circulation, tandis que les toits des immeubles hérissés de fer à béton retiennent un air lourd au crépuscule, dégoulinant à l'aube. Ici, comme ailleurs, les gens font plus ou moins de leur mieux. Globalement, les choses marchent. On agit machinalement, le plus souvent on parle pour ne rien dire, on se salue, ça suffit. L'énoncé banal touche au fait. Mazar-e-Sharif a l'allure d'une bête morte, on y voit pointer, sur fond brun, le squelette des infrastructures soviétiques. Le chauffeur m'a pris à l'aéroport de Kaboul, il ne cesse de causer, journaliste, they can't think, they can't write. Il a raison, rien à foutre de l'élégance, on n'est pas des écrivains, on n'est pas ici pour faire des phrases, mais pour travailler. Pour nous, le style n'existe pas, on torche façon rédac de troisième, léché juste ce qu'il faut pour le lecteur moyen, et basta, emballer, c'est peser, seul compte la victoire de l'action sur le projet. Le reste, c'est en plus, il y a toujours un reste. Un petit saut. Il y a toujours un reste, la preuve. Sa tignasse blanche, sa voix puissante, aux inflexions théâtrales, son accent où les R descendent comme des troncs, les moulinets de ses bras, la touffeur de l'habitacle, tapissé de velours vert à franges, tout ça, sans le déjà vu. Je pense aux crises tropicales de Kinski sur le tournage de Fitzcarraldo. Cells. La suite est baragouinée entre les dents, un crescendo coupé d'interjections. Il est question de conditions d'emprisonnement indignes d'un animal. Il gronde, mais son sourire approuve. Tash Eileili, the step of tulips. La voiture fait un écart, tangue. On dirait qu'il va couper à travers la prairie. Il répète Corolla, Corolla, en tapotant son volant. Je crois qu'il veut nous embarquer dans un rodéo fleuri, pousser sa bagnole à travers les champs, espérant le dissuader. Old car? Aucun rapport. Il ne s'agit pas de savoir si la voiture tiendra le coup. My friend, listen, not Corolla like Toyota Corolla. Just Corollas, you know, the flowers. Il montre, à droite, la vague rouge sur fond noir à perte de vue. Il dit qu'on empilera ici autant de têtes de talibans chaque année qu'il y a de corolles. Et encore, Rashid Dostum, man, he's a hero. He'll run this country one day. Talibans, they got it up to the ass. Non, il est ouzbek. Non, il ne s'agit pas de religion, seulement d'honneur. Il s'agit du pas antique et poussiéreux des chameaux et celui, plus lourd, de la liberté. Ce n'est pas vraiment ce qu'il dit, mais l'esprit y est. Ça remonte à décembre 2001, des milliers de prisonniers talibans furent enfermés dans des containers par les combattants locaux, asphyxiés au milieu des tulipes. Sheep die in 20 hours when they are stuck into trucks without water. These fuckers died in 6. Ask why, pussies. Ask our puppet president. Il est plié de rire. L'autoradio passe une version reggae de Billie Jean. On approche d'un checkpoint, de grosses gouttes commencent à tomber. Le chauffeur baisse la vitre, ralentit, allume une cigarette, coupe le poste, fixe un badge bleu au rétroviseur, se mouche. La guérite est déserte, un tube de barbelé barre la route, il klaxonne, on attend. On parle 32 langues en Afghanistan. Je cherche « Leili » dans le dictionnaire de poche arabe-français qui m'a été fourni par mon employeur. On se demande quelle amélioration pourront apporter ici des gens qui pensent qu'on parle arabe dans tout pays musulman. Je tombe sur masquid, mosquée. Les mots « mosquée » et « masque » ont la même origine, « masquid », verbe pronominal, épisodique, signifiant aussi bien « se dévoiler, se soumettre » que « dévoiler et soumettre ».
Merci. Alors, les pages que vous venez d'entendre sont des pages un peu spéciales. Je dirais que ce sont des pages fantomatiques, puisque si vous achetez le livre, vous ne les trouverez pas. Peut-être n'aurais-je pas dû le dire. C'est un texte qui est venu s'immiscer dans un texte ancien. Et cela m'amène à parler avec vous de quelque chose qu'on trouve finalement dans vos œuvres à tous deux, qui est cette dimension un peu spectrale qui vient hanter vos textes. Et il se trouve que cette dimension spectrale, c'est... finalement, la présence des fantômes de l'histoire. Pour continuer avec toi, Philippe, non seulement tu as introduit par force dans ce texte qui n'en parlait pas, ces références à l'Afghanistan, mais tu dis dans ton deuxième livre que le nom de ta mère, Palm, est l'un des tout premiers noms écrits dans ce livre Mein Kampf, qui nous a valu de nombreuses horreurs. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce qu'il s'agit de dire que, d'une certaine façon, la douleur dont tu es atteint pourrait être l'expiation de l'inscription de ce nom dans ce livre odieux, ou est-ce que c'est pour faire advenir dans ta douleur d'autres douleurs qui ont traversé le siècle? Qu'est-ce que c'est que cette allusion-là?
Ça, c'est quelque chose qui doit être écrit. Donc c'est encore à écrire.
Tu ne veux pas en dire plus pour l'instant?
Je ne saurais pas quoi en dire. Je n'ose pas en dire quoi que ce soit comme ça. C'est le livre, on porte tous un, deux, trois, quatre livres pas trop mauvais. Celui-ci, je n'ai aucune idée à quoi il ressemblera, pourrait ressembler. Mais c'est le livre vers lequel... je vais.
Voilà. Bon, donc soyez attentifs aux livres qui paraîtront sous le nom de Philippe Ramy dans l'avenir. Nous aurons peut-être des réponses à ces questions laissées en suspens. Marie, dans tes textes aussi, il y a une présence un peu spectrale de l'histoire qui peut-être se précise un peu de livre en livre. Il me semble qu'elle était quasiment absente des tout premiers. Et puis, on a eu, à travers l'évocation de Bram Van Velde dans Villa Chagrin, des allusions à la Seconde Guerre mondiale. On a dans André des Ombres des allusions à la Première Guerre mondiale et aussi à la colonisation, de certaine façon. Et puis, de façon de plus en plus appuyée, on voit cette histoire qui essaye de faire irruption dans l'entour de tes phrases. Tu peux nous en dire un mot?
Oui, il y a aussi la guerre d'Algérie dans Trois meurtres. C'est comme... En réalité, c'est... Le fait que ce soit spectral comme rapport à l'histoire, je crois que c'est une timidité par rapport à l'histoire et comment dire je à l'intérieur de voilà. Mais ça c'est un besoin aussi, c'est absolument nécessaire que ce soit, c'est l'inscription première à partir de quoi tout le reste peut advenir. Alors si c'est simplement rappelé parfois, c'est quand même essentiel que ça le soit. Après, c'est pas pour autant que c'est pas du tout historique ni des narrations historiques, mais c'est le fond à partir duquel le reste. Oui. Et sans doute de plus en plus parce que peut-être moins de timidité ou une autre manière de l'approcher.
Il me semble, mais peut-être que là je m'aventure un peu trop dans ce qui pourrait être de la surinterprétation. Il me semble que cette question de la présence de l'histoire dans notre temps est de plus en plus massive et que nombre d'écrivains ont décidé de l'affronter. Alors ça se fait, et on l'a vu dans les polémiques de cet hiver, ça se fait parfois dans le récit, dans cette espèce de difficulté à faire cohabiter le témoignage et la fiction, et donc de façon forcément un peu massive. Et puis il me semble que dans certains livres d'une autre teneur, d'une autre nature, comme les vôtres, on voit cette présence
de manière beaucoup plus fugitive, mais en même temps insistante, inquiétante et floue à la fois, et que peut-être une collection comme Grand Fonds est celle où l'histoire peut se dire autrement par d'autres formes de détours et d'appropriation. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça serait quelque chose comme ça, mais c'est une question très difficile, la question du...
Ah, on n'est pas là pour faire simple. Voilà. Hein.
Non, mais tu vois, je me dis que, par exemple, au cinéma, je ne sais pas, le rapport du cinéma, de la forme du documentaire, de création, quelque chose comme ça, et qui s'empare, ou qui va parler de l'histoire, peut-être il a trouvé des manières d'en parler que la littérature cherche encore ou est en train de chercher. J'ai pas, hélas, je n'ai pas d'exemple. Si, peut-être, c'est sans doute pas du tout le bon exemple. Il faudrait trouver quelque chose de plus. Mais je pense à la commune de Watkins, par exemple, où on va avoir l'histoire de la commune réellement et à la fois une forme qui ne dit pas du tout qu'on est dans une fiction recomposée, mais que les personnages qui sont acteurs là sont aussi acteurs dans la vie, à la fois. Bon, voilà, et je ne sais pas, mais... Il y a forcément des exemples aussi, mais comme si ça se cherchait, ça. Mais c'est avec timidité que ça se cherche, et avec pudeur
mais
aussi.
Mais cette forme d'écriture où on sent que l'histoire habite le texte, habite le narrateur, habite le poète, c'est quelque chose qui n'est possible qu'en littérature. C'est extrêmement difficile de faire passer ça avec des images. Alors qu'au détour d'une phrase, il peut y avoir une allusion, une évocation dans le passage que j'évoquais tout à l'heure de Philippe Ramy, c'est un peu comme ça que ça se joue, non Philippe?
Moi je suis de ceux qui pensent que le sentiment de culpabilité n'est jamais suffisamment fort et n'est pas fait pour décliner. Et nous avons traversé en littérature, du moins française et allemande encore plus grande, cette ère de soupçon, cette ère de remise en question du sujet, cette désarticulation de l'instance d'énonciation et de la subjectivité, et cette neutralisation de toute position dominante du langage, cette attaque de toute prétention du langage à saisir quoi que ce soit de manière absolue. Et c'est une bonne chose, et pour moi, enfin dans le travail actuel et cette occurrence à laquelle tu fais allusion, dans le fond, c'est pour faire résistance à la tentation contemporaine en marche de passer à autre chose. Et dans le fond, ce n'est pas pour être vestalon du temple. Mais c'est pour aller plus loin, pour tenter de reformuler ce sentiment de culpabilité alors que, historiquement, on est évidemment à distance, mais que rien ne se met à distance. Au contraire, tout se rapproche ou rien ne change et le bien comme le mal demeure en promis. Je pense qu'on porte une responsabilité en écrivant, en tout cas pour sa propre vie.
Tu dis d'ailleurs dans ton second livre que la littérature est une sorte de tribunal. Cette formule est quand même extrêmement forte. Tu la soutiens, tu l'argumentes, ou ça fait partie de ces gestes d'exécration, selon le sous-titre du livre, qui se formulent de temps en temps, mais qui ensuite, finalement, n'ont pas de vertu démonstrative.
Ça fait partie du... chapitre 3 du livre en train de au four. Donc dit comme ça, lancé de cette manière provocative dans le fond et qui permet sans doute aussi de se donner bonne conscience à peu de frais et de prendre le monde entier à témoin de son de je ne sais quoi. Signé avec ça, bon, passons à autre chose. Mais l'idée, c'est de travailler là.
Donc, oui. Chez Marie, au contraire, plutôt que cette dimension-là un peu forte, presque agressive que tu dessines, j'ai le sentiment, quand tu évoques l'histoire, Marie, qu'il s'agit plus de quelque chose comme un geste de réparation ou de restitution.
Et que c'est d'ailleurs le geste qui est le tien dans les autres ouvrages, même s'il ne parle pas de l'histoire, comme la volonté de rendre à ces figures dont tu parles quelque chose de la dignité qu'elles ont pu perdre à un moment ou à un autre.
Oui, et puis qu'elles puissent être saisies, même si... qu'elles puissent être saisies dans une complexité, même si la complexité n'est pas démontrée, parce que le travail n'est pas un travail d'histoire, enfin, etc., mais qu'on puisse la soupçonner et l'entendre, oui.
Jusque j'ai y compris dans ce dernier livre, où finalement, cette situation très complexe, c'est le mot, des Basques s'exprime.
Voilà. Ouais. Oui, oui.
Bien, peut-être qu'il y a d'autres questions, parce que j'ai un peu épuisé les miennes, je vous avoue. Parmi vous qui souhaitent intervenir, se poser à l'un, à l'autre ou aux deux de nos invités? Oui, monsieur?
Attendez, le micro.
Le support historique de Philippe se base sur quoi? Puisqu'il ne voyage pas, sauf dans sa tête et ses lectures.
Il y a deux. Enfin, peut-être la question est un peu compliquée parce qu'il y a deux. Je ne sais pas si on l'a suffisamment fait entendre dans notre dialogue. Il y a des occurrences différentes. Il y a l'Afghanistan à l'instant, et puis il y a cette allusion à Mein Kampf et au nom maternel inscrit dans ce livre. Donc, votre question porte plutôt sur l'Afghanistan, si j'ai bien compris, et sur la façon qu'on a de pouvoir en parler quand on n'y va pas, c'est ça? Oui. Alors, Philippe.
Oui, la question n'est toujours pas plus claire pour moi. Mon support historique se base sur le même que le vôtre, dans le fond. Il se base sur la légitimité du langage. Je crois que je n'écris pas pour dire quelque chose ou pour défendre un point de vue, mais plutôt pour donner forme et je m'en sortirai comme ça, je ne sais pas comment vous dire.
Peut-être on pourra trouver la même question à Marie Cosnet d'ailleurs, parce que toi aussi, quand tu évoques l'histoire, est-ce que tu le fais à partir de supports, et notamment peut-être de supports familiaux, biographiques, d'archives, ou est-ce que tu le fais à partir de développement onirique?
Excusez-moi, il y avait quand même des descriptions assez précises dans l'extrait de tout à l'heure.
Oui, rien n'est vrai. Hein, c'est... Oui,
voilà, c'est complètement imaginaire. Là.
Non. Dans le fond, c'est peut-être il faut peut-être le lire comme on lirait de la poésie.
D'accord.
Ne pas chercher la vérité vraie, mais d'accord. La vérité.
Ouais, c'est plutôt comme ça que je l'avais ressenti. Alors.
Du langage, oui.
D'accord.
Et peut-être que le support historique, ce serait plutôt une forme de tendresse pour ce qui existe. Et on peut aussi l'appeler. Fumisterie littéraire.
C'est bon.
Marie?
Je crois que chaque fois, c'est prendre un événement qui pose une question. La question, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, là, que s'est-il passé à ce moment-là? Alors, sans du tout la prétention de pouvoir y répondre, mais juste de poser la question. Alors, qui se double de la question intime, mais c'est la question... collective, voilà, mais d'un moment historique, et que ce soit un moment passé, un moment charnière dans l'histoire, comme la Première Guerre mondiale, ou un moment contemporain aussi. Voilà.
Il me semble, si je puis me permettre d'ajouter à vos réponses, que la différence entre le geste d'un historien et le geste d'un écrivain, c'est que le geste de l'historien, c'est de répondre à la question voilà. Que s'est-il passé avec tous les éléments qu'il pourra mettre... En évidence et découvrir, alors que l'action d'écrivain, c'est bien sûr que c'est le passé, mais c'est aussi comment je le reçois, comment je me l'approprie, comment je le reformule, qu'est-ce que j'en éprouve, et qu'il y a là une dimension que la littérature ajoute à l'histoire.
Oui.
D'autres questions? Oui.
Marie, j'ai une question dont je ne sais pas trop comment je vais réussir à l'éclaircir, à la formuler. Elle porte sur le fait que Dominique a parlé de nombre de tes livres, mais il y en a un dont, si j'ai bien écouté, il n'a pas été question, qui est aussi sorti chez Laurence Tepper et qui fait extrêmement fortement référence à l'histoire, puisqu'il est pris dans l'histoire contemporaine. J'ai oublié le titre.
Entre chagrin et néant.
Et donc, ce livre-là, qui est pour moi un extraordinaire travail de littérature, comment as-tu réussi à construire, enfin, il faut dire, par
oui,
exemple,
pour les gens peut-être qui... Marie peut expliquer de quoi il s'agit, oui, pour que les sûr. Gens qui ne l'ont pas lu sachent de quoi l'on parle, et ensuite répondre à la question.
En fait, c'est pas parti du tout avec l'idée de faire un livre, mais un certain nombre de fois par semaine, pendant quelques mois, je suis allée au tribunal au TGI de Bayonne, au tribunal de grande instance de Bayonne, où étaient présentés des gens qui n'avaient pas les papiers de les titres de séjour qui leur permettaient de résider. Alors, en réalité, ils étaient arrêtés dans le train de la frontière Bayonne jusqu'à l'Espagne. Au tribunal, ils passaient devant la juge des libertés de la détention, qui en général les réexpédiait au centre de rétention pour 15 jours, plus 15 jours. Et puis, voilà. Donc, en fait, au départ, je suis allée là parce que je pouvais y aller, c'est-à-dire témoigner et être là et écrire et savoir, enfin essayer de voir. Et puis très vite, la seule chose que je pouvais faire, à part d'offrir un café et quelquefois faire passer la frontière, ben, c'était d'écrire. Donc voilà comment c'est. Alors après, que ce soit un travail littéraire, c'est, enfin, je sais, comme tu dis, hein, je sais pas si c'est, mais c'est, enfin, disons que si la langue est travaillée, c'est que ce n'est qu'une question de langue. Là où c'est un tribunal, c'est un endroit où les gens parlent, et en écoutant les gens parler, voilà, c'était le travail pas. Était sur la langue aussi.
Oui, mais c'est justement ça qui m'intéresse, le travail sur la langue, parce que, à l'évidence, n'importe quelle autre personne aurait été présente, écrivain ou journaliste ou qui que ce soit d'autre, et aurait eu envie de rendre compte de ce qui se passait, l'écriture aurait été considérablement différente. Et ce qui m'intéresse, c'est ici, cette écriture-là, comment trouver, quand on est dans la situation de parler de ou de parler à la place de personnes qui, en gros, n'ont pas la parole, comment faire en sorte qu'on ne prenne pas le pouvoir là-dessus et que, justement, à la fin, ça soit vraiment, comment dire, eux qui parlent, bien que ce soit toi qui écrives tout, d'un bout à l'autre. Qu'est-ce que c'est à quoi il faut faire attention, quoi. C'est la chose la plus difficile qui soit, pour moi, en écriture.
C'était de partir de la question encore, de la question qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est dit et qu'est-ce que j'entends et toujours partir de l'endroit, du tout petit endroit où je suis, moi. C'était en fait une sorte de position timide, je crois.
D'autres questions peut-être ? Pendant que le micro circule, je signale à ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas ce texte, très très beau texte et très lisible, de Jacques Derrida, qui s'appelle « Poétique et politique », qui est publié aux éditions de Lerne, qui est un tout petit livret, et qui interroge cette question sur laquelle Philippe Longchamp met le doigt, qui est le « parler pour ». Qu'est-ce que c'est que « parler pour » sans parler à la place de ? Et avec en même temps toutes les ambivalences du « parler pour », puisque c'est aussi... un texte qui s'adresse à quelqu'un. C'est pas simplement un texte qui prend la parole, qui ne peut pas se dire, qui essaye de formuler cette parole muette, mais c'est aussi un texte qui est renvoyé vers le corps social. Et il me semble que dans Entre chagrin et néant, qui est effectivement un très beau livre, il y a aussi cette démarche-là que l'on peut dire, pour le coup, politique, au sens le plus noble et le plus large du terme. Le livre de... Oui, il y a une question là-bas, je crois. Non ? Ah, pardon. D'autres questions ? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu dire tous deux et que vous n'avez pas pu dire parce que je n'ai pas posé la bonne question ? Non ? Philippe non plus. Bien, alors donc je pense qu'on va interrompre la séance et vous laisser éventuellement discuter un petit peu en aparté les uns avec les autres. Je dirais simplement cette dernière phrase de Philippe Ramy dans « Demeure le corps ». Là aussi, « Demeure le corps », c'est un titre fabuleux. Hein. Le corps est à la fois ce qui demeure, mais c'est aussi la demeure dans laquelle on se trouve. Et pour le coup, dans le cas de Philippe Ramy, cette demeure peut être quand même une demeure singulièrement difficile à habiter. Hein. Et il écrit cette phrase « J'écris autant contre ce qui m'anéantit que pour faire taire la voix qui résiste à cet anéantissement. » Je vous remercie pour votre présence.
Juste une petite chose.
Pardon.
Je pars en Chine demain dans la vraie vie. Donc.
Merci.